BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Cette semaine, ici, dans la capitale européenne, on distribuait les carnets de notes. En fait, c'est la Commission européenne, ce sont les services de Pierre Moscovici qui distribuaient les carnets de notes sur les performances, les réformes économiques des 28. Pour la France, ça s'est pas mal passé. Le pays est dans la bonne voie, même s'il y a encore pas mal d'efforts à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que... alors. Je vous donne un petit peu les coulisses. On reçoit les journalistes toujours les communiqués à l'avance, sous embargo. Et il y a déjà les citations, les textes que doivent prononcer, énoncer les commissaires au pupitre. Et ce que devait dire Pierre Moscovici, c'est « Il y a des progrès en France, mais il faut certainement faire beaucoup plus. Ce sera pour le prochain gouvernement et nous serons donc très attentifs aux engagements qu'ils présenteront. » Il faut certainement faire beaucoup plus. Ça, c'est ce que Pierre Moscovici devait dire. Et finalement, ce qu'il a dit dans l'hémicycle, c'est « Il y a des progrès, mais il faut certainement faire davantage. » Voilà, on voit déjà, parce que le moindre mot compte dans le jargon européen, on voit que Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques, il met la barre un petit peu moins haut par rapport à la France. Bonjour Fabien Dell.
Bonjour.
Tiens, ça tombe bien, vous faites partie du cabinet de Pierre Moscovici. Pourquoi il a changé ses éléments de langage ?
Écoutez, il faut peut-être revenir sur de quoi il s'agit. Que dit la Commission depuis plusieurs années maintenant ? Elle dit que la France est en déséquilibre excessif, à la fois parce qu'il y a un problème de finances publiques et parce qu'il y a un problème de compétitivité de l'économie française. Et qu'est-ce que la Commission a constaté cette semaine et que le commissaire a relaté dans cette citation ? Simplement le fait que ce soit du point de vue des déficits ou du point de vue de la compétitivité, un certain nombre de mesures ont été prises au cours des années qui viennent de s'écouler, qui font que la France est en voie, si elle ne change pas radicalement sa politique économique après l'élection, par exemple, est en voie de résorber ses déficits.
Très bien. Est-ce qu'il y a une différence, Fabien Dell, entre il faut certainement faire beaucoup plus et il faut certainement faire davantage ?
Beaucoup plus, c'est un sous-groupe de davantage. Et donc,
on est bien parti aujourd'hui. Bonjour Philippe Lamberts, eurodéputé vert, président des Verts au Parlement européen. Pour vous, ça veut dire quelque chose
ou non, pas, mais je crois qu'on s'est trompé. Dans le document que vous avez reçu, on a interverti les citations de Valdis Dombrovskis, le patron de Moscovici et de Moscovici. Ouais. Autrement dit, la ligne ultralibérale de la Commission est toujours là. Il faut déréguler le marché du travail. Parce que quand on parle de compétitivité, c'est évidemment de ça qu'on parle. Ce qu'on oublie, c'est que la compétitivité, c'est un rapport qualité-prix, et ce qu'il faut, c'est être capable de créer des produits à forte valeur ajoutée. Et c'est toujours relatif. Je veux dire, quand votre voisin fait du dumping social, ça peut être une course sans fin, mais dont les travailleurs...
Également avec nous sur le plateau aujourd'hui, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Vous allez bien, Charles ?
Très bien.
On n'a pas tant parlé de ce paquet d'hiver de la Commission européenne sur le semestre européen.
Parce que le semestre européen, c'est très global. Donc, ouais. Vous avez des analyses par pays, vous avez une question macroéconomique, puis après des recommandations, ouais. Puis les États peuvent réagir, et puis on n'est pas content, puis on discute, puis on échange. Donc, c'est un long processus. Donc, on réagit plus à chaque fois.
Ça va, Jean Quatremer ?
Oui, de quoi parlons-nous aujourd'hui ?
On parle, ben c'est la question, justement, Jean Quatremer, de Libération et du bloc coulisses de Bruxelles. De quoi parle-t-on ? La surveillance budgétaire, qui écoute encore Bruxelles ? Voilà ce dont on parle aujourd'hui pour réagir, hashtag 500ME. Donc, Pierre Moscovici a clairement baissé d'un ton. Vous êtes d'accord avec ça, Jean ? Ou bien vous pensez qu'il dit ce qu'il veut au pupitre de la Commission européenne ?
Non, je crois véritablement que Pierre Moscovici est en campagne.
Ouais.
Il y a une campagne présidentielle qui arrive. Croire que... Non, il n'est pas candidat, mais je veux dire, il soutient clairement, en tous les cas, soit Hamon... le mot clairement concernant Pierre Moscovici va peut-être un peu loin, parce qu'il a des rapports très tendus avec Hamon, le candidat socialiste, et Macron.
Hamon, hein.
Voilà, il est entre... Bien sûr.
Non, il a voté Payon.
Il a voté Payon, bien sûr. Mais il est en tous les cas, il va soutenir son parti.
Même s'il s'en défend.
Il ne veut pas, en tous les cas, compliquer la tâche d'un éventuel candidat centriste ou de gauche, et donc il ne va pas s'amuser à taper sur la table. Là, l'idée, c'est plutôt de souligner que, finalement, le mandat de François Hollande n'a pas été si négatif que cela. C'est ce que fait Pierre Moscovici. Il est en train d'expliquer, il est en train d'assurer le service après-vente de François Hollande, disant, vous savez, ça ne sert à rien de voter contre les socialistes, parce qu'on n'a pas été si mauvais que ça. On a fait beaucoup d'efforts. Ouais. Et donc, désormais, on va pouvoir raser gratis si jamais vous revotez
Là, on parle de Pierre Moscovici, on va revenir en détail sur la situation de la France dont Pierre Moscovici a été le ministre des Finances dans le gouvernement Hérault, la France de maintenant, la France d'après, l'Allemagne également, qui aurait des excédents pas sains selon la Commission européenne, mais qui pour autant ne sanctionnent pas. Voilà, on pourrait sanctionner certains pays parce qu'ils ont un trou dans la caisse, mais on pourrait aussi sanctionner d'autres pays parce qu'ils ont trop d'excédents et ça provoque des déséquilibres. Et puis on va parler donc de ce pacte de stabilité de manière générale, la surveillance budgétaire, si ça marche encore en Europe. Mais c'est intéressant, Jean, qui partait sur les candidats à la présidentielle. Quand on regarde François Fillon, donc le candidat Les Républicains, lui, il a dit qu'il voulait réaliser 100 milliards d'euros d'économies en 5 ans pour ramener le niveau de dépenses publiques en France à 49% du PIB en 2022, sachant qu'on est à 57% aujourd'hui. On est, je crois, le deuxième pays de l'OCDE qui paye le plus. Il y a peut-être juste la Finlande devant nous. Marine Le Pen.
La Corée du Nord.
Marine, ils font partie de l'OCDE, la Corée du Nord, je ne suis pas sûr. Marine Le Pen, elle prévoit de ramener le niveau de la dépense publique à 53,4% du PIB en 2022. A priori, quand on voit son programme et toutes les promesses qu'elle fait, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de le tenir. Mais bon, je ne suis pas économiste. Emmanuel Macron, on sait qu'il veut quand même respecter les procédures, enfin, en tout cas, de rester sous le déficit public de 3%. Et puis, alors, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, alors là, on dévale le toboggan. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles de Marcy? C'est difficile pour Pierre Moscovici de prendre position aujourd'hui. En gros, là, il a dit, c'est bien ce que la France a fait jusqu'à présent. Elle a fait des réformes, elle a fait le boulot. Mais le prochain gouvernement, on le tiendra à l'œil. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, à part un petit peu Macron, mais qui se préoccupe encore de la surveillance budgétaire bruxelloise.
C'est un problème. C'est un problème parce qu'on a une commission plus politique. La question, c'est est-ce qu'on est dans un outil qui est technocratique et on s'adresse juste aux administrations nationales, ou est-ce que c'est un outil qui est politique et on s'adresse aussi au gouvernement actuel, au futur gouvernement, aux citoyens, pour qu'ils comprennent qu'il y a une trajectoire, sans avoir le sentiment que c'est Bruxelles qui impose. Et on voit bien que c'est pas la commission qui s'est octroyé ce pouvoir, ça lui a été attribué par les États, et c'est au nom des États membres qu'évidemment ils font ce suivi budgétaire, puis après il y a des recommandations, puis les États ont finalement l'arme finale si c'est nécessaire. Et dans ce contexte-là, c'est une commission plus politique. Et elle doit faire attention. Et c'est pareil avec l'Italie, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. C'est pareil aussi avec l'Allemagne. On est dans une année qui est très électorale, avec un grand tunnel. Et donc, dans ce contexte-là, il faut faire attention et peser chaque mot.
C'est intéressant ce que dit Charles de Marcy.
Souvent.
Philippe Lambert. C'est encore plus de force quand c'est moi qui le dis, Charles. Oui, mais Philippe Lambert, finalement, oui, commission politique. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Claude Juncker. Commission politique. Mais qui dit politique? Ça veut dire que... on a un petit peu de souplesse dans l'application des règles.
Tellement qu'en plaisir. Donc en fait, les règles budgétaires européennes n'ont plus aucune crédibilité. D'abord parce qu'elles n'ont absolument aucun fondement scientifique. Je veux dire, les 3%, la limite du déficit à 3% du PIB ou la limite du stock de dette à 60% du PIB n'ont absolument aucun fondement scientifique. Donc 60%
elles n'ont plus aucune crédibilité. Elles en ont eu à vos yeux un jour?
En tout cas, on a voulu faire croire qu'elles en
D'accord.
avaient, mais en tout cas, clairement, elles n'ont aucune base scientifique. Et donc, on peut avoir un déficit de 60% un stock de dette de 60% du PIB et que ce soit très mauvais, comme on peut avoir un stock de 60% du PIB et que ce soit très bon parce qu'on investit dans des choses qui créent de la valeur. Mmh. Même chose pour le déficit. Ça dépend pourquoi faire, en fait. Le problème, c'est qu'on s'intéresse pas du tout à la qualité de la dépense publique et donc on met des chiffres complètement arbitraires. Donc premier déficit de crédibilité, deuxième déficit de crédibilité, vous le disiez Charles, c'est une commission politique. Donc selon que vous serez l'Allemagne, la France, l'Italie, on va vous traiter d'une certaine manière. Si vous êtes un petit pays comme la Belgique, le Portugal ou autre, on va vous traiter avec une rigueur toute différente. Je veux dire, qui ose dire à l'Allemagne que sa politique de dumping social, sa politique de sous-investissement structurel est une politique criminelle pour
mais
les
vous, Philippe
pour
Lambert.
Oui, nous, mais la Commission ne va évidemment jamais le dire.
Je me rappelle d'elle. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dire? Non, peut-être pas criminel.
Je pense qu'on va commencer à parler de l'Allemagne.
Je rappelle que vous faites partie du cabinet de Pierre Moscovici.
Je pense qu'on va parler de l'Allemagne peut-être un moment plus tard, juste sur les règles. Il y a quelque chose que je peux pas laisser dire. C'est qu'il y a quelque chose que je partage et quelque chose que je ne partage pas. Ce que je partage, c'est qu'effectivement, ces règles, c'est pas de la science dure. Le 3%, le 60%.
C'est même pas de la science
molle.
C'est du bullshit.
C'est des conventions qui ont été décidées entre les États membres au moment de la création de l'euro parce qu'on pouvait pas rentrer dans cette copropriété qui est l'euro sans règlement de copropriété.
Et que la Commission
on
applique.
On est d'accord.
Et que la Commission applique et c'est pas. Et la Commission.
Encore faut-il que ces règles fassent sens.
Et ces règles. Si on voulait les changer, il faudrait qu'il y ait un consensus des États membres pour le faire.
Il faut une majorité. Si vous pouvez laisser Fabien Dell exprimer son idée.
Sur la critique intellectuelle des règles, on peut aller très loin, mais aujourd'hui, notre mandat à la Commission européenne, c'est de les faire appliquer. Comment on les fait appliquer? Quand on dit qu'on les applique de manière politique, l'idée n'est pas de dire qu'on a un traitement à la tête du client. L'idée est simplement de dire que toutes les règles, je prends toujours l'image de l'app sur un iPhone. Si ces règles étaient si simples que ça, si automatiques, on aurait une app, on pourrait scanner le budget, ça ferait vert, rouge, orange, et il n'y aurait pas besoin de Commission européenne. Pourquoi il y a besoin de Commission Commission européenne, précisément parce qu'il faut pouvoir faire attention à des choses comme la qualité de la dépense publique, pourquoi on fait des déficits.
Faites attention, parce que j'en connais plusieurs, Laurent Wauquiez ou même Marine Le Pen, etc. S'il suffit de créer une app pour squeezer la Commission européenne, je pense que ça va réfléchir à pas. Jean Quatremer.
Non, mais il y a plusieurs choses. Quand on dit que ce n'est pas de la science, il faut quand même se rappeler pourquoi ces règles de 3%, de 60% ont été instaurées dans le traité, quand on a négocié le traité de Maastricht en 90, 91. Tout simplement parce que l'idée des Français et des Allemands, qui négociaient avant les autres, ils négociaient en amont des autres, c'était de dire comment on va faire pour éliminer les Italiens. C'était ça le but. C'est comment se sortir de l'Italie. Et les Français à l'époque, François Mitterrand, étaient d'accord. Jean-Claude Trichet, qui négociait cette partie-là, on dit oui, et moi j'ai consulté les procès-verbaux des négociations, c'était comment on va faire pour se dépatouiller de l'horrible problème italien. Alors les Belges posaient pas de problème parce que souvent ils sont petits. Avec leur dette à 130%, leur machin, on peut se payer la Belgique. C'est-à-dire, on a cru qu'on pouvait se payer la Grèce, on a vu qu'on n'a pas pu se la payer. Bon, enfin bon, ça c'est une parenthèse. Mais les Belges, on savait qu'ils savaient s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Ils ont cette capacité à s'en sortir. Mais donc les Italiens, il fallait s'en sortir. Donc on a trouvé cette règle. Les Français avaient inventé la règle de 3%, c'est François Mitterrand, parce que le budget était en train de déraper, c'était le seul moyen de faire, en 80-82, la fameuse relance, et c'était le seul moyen d'arrêter les socialos qui voulaient, qui étaient en train de jeter de l'argent par les fenêtres. À 3%, attention, tout explose. Et c'est comme ça qu'on l'a créé. Mais personne n'a pensé qu'une fois dans la monnaie unique, on aurait un règlement de copropriété qui ferait que la règle des 3% et des 60% serait inscrite dans le marbre. Et ça, c'est les Allemands, parce que les Allemands se sont rendus compte que les Français avaient changé de fusil d'épaule et qu'ils voulaient avoir les Italiens, qu'ils voulaient avoir les Espagnols, qu'ils voulaient avoir les Portugais, qu'ils voulaient avoir les Grecs. Et là, les Allemands ont pris peur, et à juste titre. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les préventions allemandes, à l'éclair de ce qu'ils appelaient à l'époque le Club Med, étaient fondées. Donc, il faut, à chaque fois, quand on apprécie ces règles, on oublie l'histoire qui les a fondées. Et il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Mais ce qu'on a, juste pour terminer mon raisonnement, c'est que, au fond, qu'est-ce qui reste de ça? Et la Commission, aujourd'hui, elle se comporte politiquement de façon très intelligente. Les 3% et 60%, la Commission ne les applique pas. Faut dire les choses. Les petits pays sont pas plus sanctionnés que les grands. Le Portugal a échappé à des sanctions financières, tout comme l'Espagne.
Parce que c'est ça, en même temps que l'Espagne. Oui, mais ça l'aurait foutu mal. Portugal et pas l'Espagne.
Oui, mais attendez, je termine juste. Je dis simplement, ils ne sanctionnent personne. C'est ça la réalité.
Laissez Jean Quatremer poursuivre son long tunnel.
Et voilà. Et simplement, le dernier point qui est quand même, à mon sens, important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est resté, qui restera de ces règles, c'est la culture de stabilité. C'est pas des chiffres, c'est qu'au fond, on se rend bien compte que faire trop de déficit, trop de dette, c'est pas bon, et qu'il faut avoir des finances publiques équilibrées. Et c'est ça qui est rentré.
C'est pour ça que la plupart, d'ailleurs, des candidats à la présidentielle française ont des objectifs chiffrés, simplement pas au rythme de la Commission européenne. Jean Quatremer, souvent, on me dit, ouais, Quatremer, formidable. Je comprends pas toujours ce que les gens disent, mais alors là, vous venez de nous faire une démonstration et un rappel historique. Honnêtement, chapeau. Ouais. Vous n'êtes pas toujours bon. Mais alors là, vous êtes très bon.
Faut dire que
Philippe Lamberts, Fabien Delz, Jean Quatremer, Charles de Marcilly sont avec nous, surveillance budgétaire. Qui écoute encore Bruxelles? On en parle juste après la pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous sommes avec nos invités, nos complices, Philippe Lamberts, eurodéputé belge de la famille des Verts, vous invité. Avec Fabien Del de la Commission européenne, membre du cabinet de Pierre Moscovici, et complice évidemment Philippe Lamberts. Quatremer, comme d'hab, et puis Marcilly, comme d'hab, Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération. Alors, Pierre Moscovici, cette semaine, entre deux Thalys, distribuer les bulletins de notes aux économies, aux pays des 28. Et quand il parle de la France, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, on parlera de l'Allemagne dans deux minutes, il a dit, pour rappel, il y a des progrès, mais il faut certainement faire beaucoup plus. Ce sera pour le prochain, je le cite, pour le prochain gouvernement, et nous serons donc très attentifs aux engagements qu'ils présenteront. Je rappelle que Pierre Moscovici est socialiste, et ni une ni deux, Françoise Grosstete, eurodéputée PPE, Les Républicains, qui y va de son communiqué et qui écrit, je la cite, « Sans rougir, l'ancien ministre socialiste renvoie donc la patate chaude au prochain gouvernement qui devra gérer les déséquilibres économiques que François Hollande a voulu mettre sous le tapis et qui impacteront le budget 2018. » Il n'y a rien de politique dans ce que fait Pierre Moscovici, Fabien Del, qui est membre de son cabinet.
Non. Il y a quelque chose qui est fondé sur une analyse des faits. La décision sur la France est basée sur un rapport qui, il fait, je sais pas, 80 pages d'analyse économique. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit grosso modo deux choses. On dit, ce que je disais tout à l'heure, il y avait un problème de déficit, il est en passe d'être résolu, entre guillemets, la France doit passer sous 3% en 2017.
Grâce aux réformes de la France ou grâce au niveau des intérêts?
Non, grâce aux efforts qui ont été faits. Et évidemment, le fait qu'on vive dans un monde de taux d'intérêt faible a des avantages et des inconvénients pour réduire la dépense publique. Je donne un exemple, parce qu'effectivement, quand on paye moins d'intérêt de la dette, c'est plus facile de faire des économies. Mais quand on n'a pas d'inflation et qu'on compte sur la désindexation d'un certain nombre de minima pour faire des économies, on n'a pas non plus l'économie qu'on avait prévu d'avoir. En d'autres termes, c'est pas sûr que ce soit gagnant ou perdant pour la France aujourd'hui, du point de vue de ses efforts, d'avoir un univers de taux bas. Par conséquent, c'est pas de la chance, c'est du travail. Ça, c'est sur les finances publiques, c'est ce qu'on pense. Et sur la compétitivité de l'économie française, on pense qu'un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre depuis quelques années commencent à porter leurs fruits et que la France est plus l'un des États de la zone euro qui diverge en termes de compétitivité. On parlera après, je pense, de l'Allemagne ou de l'Italie qui sont des États qui fabriquent un peu ce qu'on appelle des hétérogénéités dans la zone euro. La France, elle, colle à la moyenne. Et de ce point de vue-là, quand on dit que le retour vers la catégorie de déséquilibre non excessif est en vue, c'est simplement une analyse factuelle.
Charles de Marcy.
Donc en fait, on félicite la France sur ce qu'elle a fait et on appelle le prochain gouvernement à prolonger et à continuer ses différents efforts.
Tout à fait.
Et alors, c'est là où ça pose quand même certaines questions, parce que quand on voit par exemple des réformes sur la zone euro, ce qui pourrait être proposé, on a plutôt le sentiment que nos partenaires freinent, justement parce qu'ils ont le sentiment que les Français ne font pas suffisamment d'efforts. Donc comment est-ce qu'on peut justifier que ces efforts ont été faits? Quels sont les leviers qui l'ont permis de le faire? Quelles réformes restent encore à faire? Quel est finalement, à court terme, les vrais messages qui sont envoyés et pas juste « on attend ».
Alors, je vais prendre deux exemples, puisqu'on a dit que le problème de la France, du point de vue de la Commission, c'était les comptes publics et la compétitivité. Je vais prendre un exemple dans chaque domaine. Les comptes publics, on voit on pense que la France va revenir sous 3% en 2017. Donc, on a discuté il y a un instant de est-ce que ce 3% est une valeur magique ou pas. C'est pas une valeur magique. Mais enfin, c'est une valeur conventionnelle pratique. Qu'est-ce qui se passe après ça? Il continue à y avoir des efforts à faire parce que c'est pas parce qu'on est en dessous de 3% que le monde est simple. Notamment, la Commission dit la dette française, qui est presque de 100% du PIB, doit commencer à avoir une trajectoire de décroissance progressive.
On est à 96,7%.
Voilà. Donc l'idée, c'est un gouvernement qui ferait le job dans la prochaine mandature serait un gouvernement qui éviterait à la France de passer ses 100% de dette sur PIB. Et ça exige de faire encore un certain nombre d'efforts. Mais alors, il y a deux façons. Hein. La dette, on peut la rembourser ou la dette, on peut s'en sortir en ayant plus de croissance. Évidemment, là où nous, on est une commission politique, on a un jugement économique qui vient informer nos recommandations, c'est qu'on pense que c'est mieux de réduire la dette avec de la croissance que de la réduire en la remboursant dans un monde sans croissance. Ça, c'est pour je peux parler dans un instant.
Et deuxième point, si vous voulez.
Sur la compétitivité, je voulais reprendre ce que disait Philippe Lambert. Il y a deux façons de faire de la compétitivité. Il y a une façon un peu défaitiste qui consiste à comprimer les coûts en produisant des produits bas de gamme. Et il y a une façon à l'allemande qui consiste à avoir aussi des produits qui sont des produits haut de gamme qui sont désirés sur toute la planète. Une Mercedes haut de gamme.
Volkswagen, par exemple.
Une Mercedes haut de gamme, quel que soit son prix, quasiment les gens veulent l'acheter. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'on recommande à la France, au prochain gouvernement de faire, c'est de travailler sur la productivité de l'économie française et donc de faire des réformes qui, plus qu'elles ne compriment les coûts, investissent dans le capital humain, oui, l'éducation.
Vous sous-entendez, Fabien Del de la Commission européenne, qu'une voiture française, quel que soit son prix, personne ne veut l'acheter?
Pas du tout.
D'accord. Philippe Lambert, et puis ensuite on va parler de l'Allemagne.
Si je peux me permettre, la Commission européenne fait partie de toutes ces institutions qui poussent dans la direction des réformes du marché du travail, dont le seul objectif est d'abaisser les coûts directs et indirects du travail. Et donc, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf que la réalité des choses, c'est quoi? C'est que quand El Khomri fait sa loi, quand on fait le crédit le CICE en France, qui sont toutes des réformes dont l'effet redistributif va dans le sens des pauvres aux riches, on applaudit. Et aujourd'hui, si je parle à la bulle européenne, à 99%, on vote Emmanuel Macron. Parce que c'est évidemment celui qui va pousser dans le sens de l'adaptation de la France à la mondialisation néolibérale. Et donc ici, on s'en réjouit. Mais c'est bien, c'est ça qui est demandé par, je veux dire, celles et ceux qui nous dirigent aux différents États membres, mais ce sont en fait les États membres eux-mêmes qui se demandent les uns aux autres de faire ce genre de politique. Vous savez, les phénomènes qu'a observé Thomas Piketty ne sont pas le résultat de de pression physico-chimique, c'est le résultat de décisions humaines. Aujourd'hui, les réformes que l'on impose, enfin que l'on impose dans lesquelles on, dans le sens desquelles on va en matière fiscale, en matière sociale, sont des réformes qui ont pour seul résultat d'augmenter les inégalités et d'augmenter la concentration de la richesse sur notre continent. Ça, c'est un fait mesurable.
Voilà, au niveau des déséquilibres macroéconomiques, des écarts de compétitivité et des inégalités, en tout cas dans les excédents et dans les balances commerciales, on peut parler de l'Allemagne maintenant. Non, parce que pendant ce temps-là, on parle de la France qui a un trou dans la caisse, mais en Allemagne, l'excédent courant a encore battu un record historique en 2016, 297 milliards de dollars. Ça fait 280 milliards d'euros. Ça représente 8,7% du PIB avec des exportations plus importantes que jamais. Or, selon les critères retenus par Bruxelles, par la Commission européenne, un excédent courant dépassant 6% du PIB annuel d'un pays menace la stabilité économique de la zone euro. À tel point que, dans les carnets de notes, on tape aussi sur les bons élèves, en fait, les trop bons élèves qui sont vraiment au premier rang. Pierre Moscovici, il aime pas, et il l'a dit. Dans le cas de l'Allemagne, nous constatons encore une fois que l'excédent courant, très important, n'est pas sain pour l'économie. Et pourtant, pas de sanctions. Est-ce que c'est même une question qui se pose? Parce que normalement, en fonction des règles, vous devriez sanctionner l'Allemagne, Fabien Del.
Alors, les règles ne disent pas qu'il faut sanctionner un pays. Le principe de ce seuil de 6, qui est encore un seuil qui n'est pas de la science.
Vous pouvez lancer une procédure. Est-ce que vous pouvez lancer une procédure?
Non,
la
façon dont ça marche, c'est le 6 nous indique qu'il faut regarder l'Allemagne en détail. Donc il y a une petite lumière rouge qui s'allume, on regarde l'Allemagne en détail. Ça fait plusieurs années que l'Allemagne a passé ce seuil, ça fait plusieurs années qu'on la regarde en détail. Et ensuite, on prend l'ensemble des facteurs de l'économie. C'est une analyse un peu plus, c'est moins simple que les budgets. Les budgets, il y a un chiffre, il est rouge, il est vert. Et puis on peut prendre des décisions un peu automatiques. La macroéconomie globale, c'est plus compliqué.
Vous intéressez à la qualité des budgets.
Ben justement, c'est pour ça que dans le cas de l'Allemagne, c'est quand même plus simple. Il y a une valeur. Dans le cas des déséquilibres macro, c'est plus complexe. Dans le cas de l'Allemagne, il n'y a pas de... On cite le problème, on décrit le problème, on indique le problème. On espère d'ailleurs que le problème, comme vous l'avez fait remarquer dans une année électorale qui va commencer bientôt en Allemagne, que ce problème sera repris par les candidats avec des solutions qui doivent être des solutions allemandes pour un problème allemand. Mais nous, notre job, c'est de mettre le doigt sur le problème concret, et c'est ce qu'on fait.
Je rappelle quand même que les 6% ont été fixés. Les 6% ont été fixés par Barroso à une époque où justement c'était juste sous les 6%.
Ils étaient à 5,9.
Ils étaient à 5,9.
Et on a mis les 6 et en disant, pour ne pas déplaire à l'Allemagne.
Voilà. Et surtout, ils ne vont pas dépasser. Maintenant, ils ont explosé tous les plafonds.
Là, on a un
problème majeur avec les Allemands, et ça fait longtemps qu'on le sait. Et aujourd'hui, une grande partie de l'euroscepticisme et même de l'europhobie en Europe est causé par l'Allemagne. Il faut quand même le dire très clairement. Parce que aujourd'hui, alors que l'Allemagne ne voulait pas l'euro, c'était un hold-up français sur le Deutschmark. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que disent les europhobes et les eurosceptiques? C'est, regardez au fond, l'euro a été fait au bénéfice de la seule Allemagne parce que c'est elle qui est gagnante. Et le fait qu'on s'y intéresse, ce qui est faux, mais c'est pas grave parce que c'est l'effet alternatif.
Non, c'est pas si faux que ça.
Attendez, je termine juste. C'est pas l'effet alternatif. Je dis simplement que aujourd'hui, les europhobes.
Il allait dire l'effet alternatif.
Que les europhobes construisent des alternatif, c'est vrai, en disant que ça a été fait au bénéfice de l'Allemagne.
Fake news, quatre mères.
Mais aujourd'hui, wrong, comme dirait l'autre, mais le fait que l'Allemagne soit en excédent est un problème majeur, et le fait qu'elle ne veut pas s'attaquer à cet excédent pose un problème.
Charles de Marcy, ça suffit que la Commission dise c'est pas sain, mais finalement ne prenne pas de mesures?
Là, on est à la limite de la commission politique. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une convergence, et la commission pointe du doigt les divergences. Et donc, elle dit, voilà, là, il faut changer, il faut améliorer, il faut pouvoir justement améliorer cette convergence. Et s'il y en a qui s'écartent, on repousse pour des questions politiques. Vous avez cité tout à l'heure le Portugal ou l'Espagne. On a aussi des raisons électorales. Ça dépend aussi parfois du contexte politique national. Et la commission n'ose pas aller jusqu'au bout de la logique, en tout cas demander au Conseil d'aller jusqu'au bout de la logique.
L'Allemagne arrive à ses excédents en comprimant artificiellement, ça demande un terme. Parce que les Allemands disent toujours, vous ne pouvez pas nous reprocher d'exporter. Non, bien sûr que non. Par contre, on peut vous reprocher de comprimer votre demande interne de manière complètement artificielle. C'est à la fois une pression sur les salaires qui reste massive. Je veux dire, il y a 7 millions de travailleurs pauvres en Allemagne, il ne faut pas l'oublier. 2, les infrastructures allemandes, ne m'en parlez pas. Je veux dire, les ponts tombent en ruine, les avions de la Luftwaffe ne volent pas. Enfin, je veux dire,
c'est pas la Luftwaffe.
Non, franchement,
la Luftwaffe.
Les avions militaires.
ne vole pas, non. Les trois quarts de la flotte de combat de la Luftwaffe n'est pas en état de vol. Parce que nous avons une obligation budgétaire de Schwarzschild, comme ils disent. C'est-à-dire, on doit avoir l'équilibre budgétaire absolu.
Alors justement.
C'est un non-sens. Je veux dire, quand vous achetez une maison, vous êtes en déficit budgétaire.
Surveillance budgétaire. Qui écoute encore Bruxelles? On a deux minutes pour faire le tour de table. Charles de Marseilly.
Je pense que les États écoutent Bruxelles, mais qu'ils n'en tiennent pas forcément compte d'un point de vue politique, puisque à chaque renouvellement, ou si le gouvernement s'est mis sa propre trajectoire, ils essayent de réajuster, mais se sentent pas encore contraints fermement, vraiment avec quelqu'un qui leur tient les deux bras en disant « on n'a pas le choix » pour pouvoir évoluer.
Fabien Dell, vous avez vraiment le sentiment que les États écoutent Bruxelles?
Je prends deux exemples. Vous l'avez dit vous-même, l'ensemble des candidats à la présidentielle française parlent des économies qu'ils vont faire. C'est bien la preuve que même s'ils ne sont pas forcément d'accord, pas forcément, ils écoutent Bruxelles, ou en tout cas, ils écoutent le message général qui vient de Bruxelles, qui est les finances publiques, c'est important. Je ne sais pas s'il y a 15 ans, je ne sais pas si dans les années 80 où je n'étais pas adulte, c'était pareil, mais probablement pas. Du coup, ça, c'est quelque chose de
Jean,
de positif.
Pourra préciser.
Voilà. Et quant à l'autre exemple qui est l'Allemagne, on va voir ce qui va se passer dans la campagne, mais nous, on est fermement persuadés qu'il va y avoir un débat là-dessus. Il y a déjà un débat sur la dépense publique, sur plus de dépenses publiques en Allemagne. Il y a déjà un débat sur plus d'investissements en Allemagne, qui ressemble un peu au débat qu'il y a pu avoir aux États-Unis sur les infrastructures qui tombent en ruine. Il y aura sûrement un débat sur plus de salaires. Et tout ça, c'est des éléments qui peuvent amener un rééquilibrage.
Jean Quatremer, vous qui aviez déjà votre carte vermeille dans les années 80, qui écoute encore Bruxelles?
Je crois que je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que les analyses, la culture de stabilité, en tous les cas, qui a été portée par l'Union européenne, maintenant, elle est intégrée dans la mentalité des gouvernements. Ça, c'est clair. Cela étant, moi, je pense qu'il y a un problème de crédibilité qui se pose à la Commission européenne. C'est pour ça que moi, je suis assez proche des propositions de Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. C'est-à-dire que je pense que ce qui est de la surveillance budgétaire devrait être confié à une agence indépendante, extérieure à la Commission européenne. Je ne dis pas les sanctions, qui, elles, doivent rester politiques, mais la surveillance, comme la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'en France, on a confié la surveillance budgétaire au président de la Cour des comptes, avec un organisme spécial qu'on a créé pour ça, pour sortir ça de la Commission européenne, pour plus qu'il n'y ait le moindre doute. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire on est une commission politique, et en même temps, on délivre des avis scientifiques. Ce n'est pas vrai. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Ouais, mais ce n'est pas les deux en même temps.
Philippe Lamberts. Oui.
Je pourrais suivre cette ligne, mais à une condition importante, c'est qu'aujourd'hui, on considère que les seuls économistes qui existent sont les économistes de l'école néoclassique qui ont inventé une religion qui est un bullshit sans nom.
Pas vous, vous parlez de Piketty.
Désolé.
Dans chaque émission, vous me parlez de Piketty 8 fois.
Piketty n'est pas un néoclassique. Ce que je dis, c'est que aussi longtemps qu'on utilisera des modèles aussi fallacieux que les seuls modèles qui existent, les modèles DSGE, qui sont utilisés pour prédire la croissance le trimestre prochain, ils ont un foutu de le faire, évidemment, parce que les hypothèses sont tellement éloignées de la réalité de nos sociétés. Aussi longtemps qu'on prétendra que ça, c'est une science, on est mal barré. Autrement dit, moi, je veux bien qu'on confie l'examen de la réalité à des gens qui ne sont pas affiliés politiquement, mais alors au moins avec une diversité d'opinion et de formation et d'approche scientifique.
Absolument.
Suffisante que pour avoir une confrontation.
Philippe Lamberts, eurodéputé belge des Verts, est avec nous. Charles de Marseille de la Fondation Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération et un peu aussi de 500 millions d'Européens. Fabien Dell de la Commission européenne. Merci d'être avec nous, messieurs. Vous restez encore parce que Éric Scholl va nous rejoindre pour la revue de presse. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens avec nos invités et complices Philippe Lamberts, eurodéputé belge, président, co-président du groupe des Verts ici au Parlement européen. Fabien Dell, membre du cabinet de Pierre Moscovici à la Commission européenne. Pierre Moscovici qui est le commissaire en charge des affaires économiques.
Et des transports, d'après ce que j'ai compris. Et dans le Thalys, c'est ça?
Bon, oui, parce qu'il non, est à la fois présent à
les douanes. Voilà.
C'est ça. Quelle mauvaise langue. La mauvaise langue, évidemment, vous l'avez retenu, c'est Jean Quatremer de Libération et du Bloc Coulisses de Bruxelles. Et celui qui a rectifié les faits, c'est Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Tiens, est-ce qu'Éric Scholl est là? Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Ah, Éric Scholl est là, patron de la rédaction de Courrier International. Où nous emmenez-vous cette semaine?
Écoutez, on va aller aux Pays-Bas, on ira en Grande-Bretagne, vous verrez, c'est très intéressant. En Suisse, bien sûr, et puis un petit tour aussi au Portugal.
Ah, bon dia, obrigado. Comment obrigado. On dit déjà, comment on dit en néerlandais, Philippe Lambert, je vous remercie. Dank u wel. Dank u wel. Bon, bah, très bien. Bah, dank u wel. Eric Scholl, tout de suite, la revue de presse.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bon, direction les Pays-Bas. Eric, aux Pays-Bas où la protection sociale est au cœur de la campagne électorale.
Oui, vous savez, en France, on parle beaucoup de la sécurité sociale, du système de soins. Eh bien, il n'y a pas qu'en France. Aux Pays-Bas, justement, où on va voter, puisqu'on votera donc le 15 mars prochain, la protection sociale est devenue un des enjeux de ces élections législatives et un enjeu qui fait pas les affaires des travaillistes. C'est en tout cas ce que nous explique l'hebdomadaire néerlandais des Groningen Amsterdammer. Pourquoi ? Parce que, en fait, la dégringolade dans les sondages des travaillistes du PVDA est étroitement liée à ce sujet, à celui donc de la protection sociale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les travaillistes sont dans la coalition au pouvoir depuis maintenant 2012. Ils sont jugés, disons, co-responsables donc, de la politique d'austérité qui est mise en place, et en particulier des coupes dans les soins et des soins en particulier vers les personnes âgées et notamment les coupes qui ont été faites dans les budgets des maisons de retraite. Voilà pourquoi, à partir du moment où les travaillistes, nous explique le journal, ont donné leur feu vert à ces coupes budgétaires, eh bien, ils ont perdu beaucoup de leur popularité. Et c'est d'autant plus intéressant qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que le Premier ministre actuel, Mark Rutte, lui, est en train de faire maintenant des promesses électorales, en particulier justement pour ces maisons de retraite. Il vient de promettre 2 millions d'euros supplémentaires. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un cadeau électoral ?
C'est important, les maisons de retraite, Jean Quatremer.
J'approche. Le temps arrive.
Non, mais c'est intéressant de voir que la protection sociale, là-bas, c'est un des points importants de la campagne.
C'est un peu la différence de la France, mais chez nous aussi, la protection sociale des familles, par exemple, est très importante. Avec François Fillon, on se rend compte à quel point la France a un système...
Je vous sens taquin. Philippe Lambert, c'est que vous avez quelque chose de sérieux à nous dire.
Je ne suis pas du tout surpris. Si vous prenez les travaillistes néerlandais, c'est qui ? Ben regardez, c'est Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, c'est Frans Timmermans, le numéro 2 de la Commission européenne. Dans tout pays normalement constitué, ces types
seraient libéraux.
Considérés comme plutôt la droite des libéraux. Et donc,
c'est des Macron un peu...
Non, plus loin.
Oui, c'est probablement un peu plus loin que Macron. Encore que Macron, quand il aura abattu son jeu, on aura bien compris. Je dis, quand un Macron dit que le privilège le plus scandaleux, c'est le contrat à durée indéterminée, il oublie peut-être ses privilèges de classe. Mais enfin, ça je dis en passant. Les travaillistes néerlandais, clairement, sont devenus un parti de droite. Et là-dessus, la concurrence est rude aux Pays-Bas. Je veux dire, entre les libéraux officiels du Premier ministre Rutte, entre les libéraux, ils s'appellent comme ça aussi, qui sont l'extrême droite de Wilders, les libéraux de gauche, enfin plus ou moins de D66, ça commence à faire beaucoup de
Wilders, c'est Geert Wilders, c'est le patron du PVV, le parti de la liberté, et qui a les cheveux peroxydés et qui est un ami de Marine Le Pen.
Tout ça fait les affaires des Verts néerlandais, puisqu'en fait, les travaillistes néerlandais nous laissent le terrain libre à gauche, et donc nous sommes en train de le conquérir.
Les Verts. Charles Marcy.
Oui, sur ces questions sociales, ça revient évidemment sur le devant de la scène en période électorale. Quand on est moins en période électorale, on essaye de couper. Quand on recommence à avoir le besoin d'avoir des votes, y compris d'une population vieillissante, on recommence à mettre sur la table des choses qui sont positives. Donc, c'est pas anodin que ça arrive maintenant.
Direction le Royaume-Uni. Eric, où pour la première fois, Oxford envisage d'ouvrir un campus à Paris.
Eh oui, Oxford sur Seine, nous dit le Daily Telegraph. Bon, alors c'est rien n'est confirmé, bien sûr, mais quand même, le papier, cet article paru dans le Daily Telegraph en dit long sur la réflexion en ce moment des universités britanniques, et plus que des réflexions, c'est des discussions qui ont été entamées avec les autorités françaises, qui sont elles-mêmes déjà dans une offensive de charme pour attirer les banques britanniques en France. Eh bien, il n'y a pas que ça, il y a maintenant les universités et Oxford. Donc Oxford, qui, si jamais effectivement on voyait un campus d'Oxford en France, figurez-vous, ça serait la première fois en 700 ans, donc la plus ancienne université britannique, la première fois qu'il y aurait un campus à l'étranger. Et pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que, en particulier, ça permettrait à l'université d'Oxford de garder, d'être habilité à recevoir, à continuer à recevoir des fonds de l'Union européenne. Malheureusement. Et c'est d'autant plus important que, en fait, derrière, il s'agit pour eux de se maintenir dans le top de la Ligue des universités.
Ça, c'est quand même intéressant comme point. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Tiens, Jean Quatremer. C'est intéressant de voir que finalement, nos amis insulaires, ils vont tous prendre une filiale ou une annexe chez nous.
Non, mais ce qui serait très amusant, c'est que Oxford...
À Roscoff.
Ce qui serait amusant, ce serait que Oxford donne des cours en français.
Comme à Toulouse.
Voilà. Et alors que maintenant vous avez Sciences Po, les écoles d'économie, qui donnent des cours en anglais, c'est tout ce qui met d'un ridicule achevé parce que c'est des cours en anglais donnés par des francophones ou des Italiens, etc., à des francophones. Et donc, mais ça serait intéressant, c'est de voir en quelle langue ils vont choisir de délivrer leurs enseignements. Ça,
you are right, Mr. Quatremer. I think that the French should start to learn better English.
Voilà, Philippe Lambert qui nous a fait une démonstration de ses qualités linguistiques.
Il m'a imité parlant anglais.
Ah d'accord, Charles de Vinci. Qu'est-ce qu'on en pense?
Qu'est-ce qu'on en pense? Jean parlant allemand.
Qu'est-ce qu'on en pense d'Oxford sur scène?
D'une façon un peu plus large, on voit que le Brexit pose un vrai problème pour les Britanniques, mais aussi pour l'Union européenne, aussi par exemple pour la Commission, parce que vous avez beaucoup de groupes d'experts, notamment sur les questions de recherche ou sur les questions Horizon 2020, et vous avez beaucoup de Britanniques, d'ailleurs proportionnellement assez moins de Français. Et s'ils veulent continuer à pouvoir y être, il faudrait aussi qu'ils puissent venir de structures qui sont présentes au sein de l'Union européenne. Et donc je pense qu'on va avoir ce mouvement d'avoir de plus en plus de structures de recherche, de centres de recherche, d'universités, qui vont chercher un pied-à-terre sur le territoire des 27 restants.
Comment, là, c'est au mois de mars, là, c'est dans quelques jours, que l'article 50 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va être déclenché par Theresa May. Et à partir de là, il y aura une horloge. C'est-à-dire qu'il faudra 2 ans pour conclure les négociations. Faute d'accord dans les 2 ans, l'Union européenne et le Royaume-Uni n'auront plus rien en commun.
Ou faute de prolongation. Je rappelle que le délai de 2 ans peut être prolongé, c'est prévu à l'article 50.
À l'unanimité
des États. Mais moi, je trouve, j'ai hâte que ça commence, et surtout, j'ai hâte de voir les implications que ça va avoir lieu. Ça va avoir. Pourquoi? Moi, j'ai toujours été favorable au Brexit, parce que l'orientation ultra-libérale ou libérale de l'Union européenne, je pense qu'elle est très largement due à l'influence britannique
pas
au sein. Oui, mais je pense que mais je me souviens parfaitement de l'époque, par exemple, la mise en place du marché intérieur, de l'acte unique. C'est à ce moment-là que on a pris le tournant. Pourquoi? Parce que Margaret Thatcher a bloqué tout ce qui était l'aspect social que Delors défendait, et que l'unanimité était nécessaire pour avoir l'acte unique et donc le passage au vote à la majorité qualifiée, et qu'à ce moment-là, au lieu de dire, on fait pas le marché unique si on n'a pas le social, il a accepté de faire le marché unique en disant, le social viendra plus tard. Ouais. Le social et le fiscal. Et Margaret Thatcher a rempli toutes ses buts de guerre, et Jacques Delors n'en a rempli aucun. Et c'est de cette époque-là que date le virage ultra-libéral de l'Union.
Ceci dit, les ultra-libéraux ont beaucoup d'émules sur le continent.
Je suis d'accord avec vous, mais le fait qu'ils se retirent du jeu, qu'ils sortent, qu'ils ne puissent plus faire partie seulement de ces groupes d'experts qui actuellement pullulent autour de la Commission, et que peut-être il y a un réinvestissement de la part des Français et des Allemands qui sont sous-représentés actuellement à Bruxelles, ça serait peut-être
le niveau de Français et Allemands. Justement, le réinvestissement de la France, d'ailleurs en ce moment on a 2 commissaires européens, on a Pierre Moscovici pour lequel Fabien Del travaille, et on a Michel Barnier qui est en quelque sorte, bon il a le titre de directeur général, mais il est commissaire européen en gros en charge du Brexit, parce que c'est lui qui négocie avec les grands bretons.
En français.
Fabien Del, attention, question piège. A-t-on 2 commissaires européens français?
La réponse formelle est claire, il n'y en a qu'un.
Formelle.
Il y a 28 commissaires dans le collège de cette commission. Il y en a un qui est en attente de renomination, qui est le commissaire ou la commissaire bulgare. Et parmi les 27 autres, il y a un français, et c'est Pierre Moscovici. Je voulais juste revenir sur le rôle des Britanniques et du point de vue de la casquette de mon commissaire qui siège à l'Eurogroupe, faire le point suivant quand même. Il y a un certain nombre de problèmes auxquels on a affaire en zone euro, qui sont des problèmes continentaux. De ce point de vue-là, le Brexit peut être un facteur de température et de pression extérieure qui peut faciliter ou compliquer les choses. Mais si la France et l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étaient d'accord sur un certain nombre de sujets, ça suffirait quand même à faire avancer, bien avancer un certain nombre de problèmes.
L'Allemagne est déjà d'accord avec elle-même, c'est déjà ça.
Charles?
C'est une question qu'on citait tout à l'heure sur la convergence. Pour se mettre d'accord, il faut aussi qu'il y ait cette confiance mutuelle, et ça passera aussi par les réformes françaises, ou de continuer les réformes françaises, pour reprendre ce que Fabien disait tout à l'heure.
Quels sont les points qu'il faut surveiller, qu'il va falloir surveiller dans cette négociation? Qu'est-ce que vous allez regarder de près dans ces négociations entre Bruxelles et Londres, vous, Philippe Lambert?
Ayant fait beaucoup de régulation financière, je vais être évidemment
très attentif. Ah oui, l'ennemi, c'est vrai que vous étiez l'ennemi public numéro 1 à Londres. Ouais.
Je vais être très attentif au fait que, d'une part, le Royaume-Uni ne conserve pas le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, ils ont décidé de sortir, ils sortent, mais donc l'accès au marché intérieur principalement pour l'industrie des services financiers britanniques, qui est à peu près la seule chose que le Royaume-Uni exporte, eh bien, ne soit plus permis. Première chose. Deuxième chose, on a cette menace, qui n'est pas non plus l'apanage du Royaume-Uni, mais de transformer le Royaume-Uni encore plus en un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne. Je serais extrêmement attentif à ce que l'Europe soit capable de prendre des mesures de rétorsion si tel devait être le cas. En fait, et ensuite, il ne faut pas oublier, je parle toujours d'argent, je sais, mais la contribution du Royaume-Uni au programme de l'Union, le Royaume-Uni va devoir contribuer au budget européen bien au-delà de 2019, tout simplement parce que des engagements ont été pris qui doivent être tenus. Et donc Michel Barnier parle d'une facture de l'ordre de 60 milliards d'euros. Alors peut-être que pour eux c'est de la petite monnaie, j'en doute, mais en tout cas il faudra qu'on ne lâche pas là-dessus non plus.
Le Parlement européen sera amené à voter, à s'exprimer
oui. Le Parlement européen sera appelé à donner son consentement, et donc un groupe de travail a été mis en place
juste
à l'intérieur du Parlement
européen. Oui, non.
Oui, sauf qu'on va accompagner la négociation au plus près. Autrement dit, le Parlement a un certain nombre d'attentes, mais qui ne sont pas très différentes de celles exprimées jusque maintenant par Michel
et
Barnier.
C'est qui Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, le libéral.
Qui mène les travaux du Parlement.
Charles de Marcy, qu'est-ce que vous allez tenir à l'œil dans ces négociations entre Bruxelles et Londres dans les deux années à venir?
L'effet boule de neige.
Ouais.
Les éléments qu'on va accorder ou que les Britanniques vont demander, les autres États, les autres capitales diront « pourquoi pas ?» Et on le voit par exemple sur les différenciations qu'on peut avoir sur certaines aides sociales avaient déjà été octroyées aux Britanniques avant le référendum, qui maintenant sont caduques, mais qui donnent des idées, y compris par exemple en Allemagne.
Différencier entre les citoyens européens.
Exactement, y compris européens,
extra-communautaires,
mais là, européens. Et donc on voit que ça peut donner des idées, parfois mauvaises, à d'autres.
Jean ?
En effet. Oui, il faut que le Brexit serve d'exemple. C'est-à-dire que aucun autre pays ne soit tenté par le Brexit. Donc la grande tentation, et surtout à la Commission, parce que les commissions, c'est sa tentation naturelle, c'est d'essayer de faire le maximum de concessions pour quelque part leur accorder un statut qui font qu'ils resteront tout en n'étant pas là, etc. Parce que ceux qui souffrent le plus actuellement dans l'Union européenne du Brexit, c'est la Commission, parce que c'est son monde qui s'effondre. Parce que la Commission, elle lit le Financial Times tous les matins, elle pense anglais, elle mange anglais, elle dort anglais, c'est fatigant. Donc là, d'un seul coup, il va falloir, c'est eux qui va falloir tenir à l'œil. Parce que si jamais, parce que c'est politiquement que ça va être intéressant, c'est pas l'effet boule de neige, à la limite, la Pologne, etc., bon, après tout, c'est le fait... Ce sont les démagogues, c'est-à-dire que toute concession qui sera faite à la Grande-Bretagne aura un prix politique, c'est-à-dire que les démagogues s'en empareront en disant, regardez, on peut obtenir la même chose, ça sert à rien d'être dans l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller soigneusement la Commission, parce que chaque concession qu'elle fera aura un effet politique dans les États membres, notamment en France. Regardez, Marine Le Pen dira, le Frexit est possible, les Britanniques s'en tirent très bien.
C'est pas le sentiment que Michel Barnier soit dans un...
Sachant que maintenant le discours de Marine Le Pen ou même de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus de parler forcément du Frexit, mais c'est de dire, nous allons demander des aménagements, nous allons renégocier, donnons-nous 6 mois, et si jamais ça ne marche pas, référendum.
Non, mais Yann Anthony, il faut être clair là-dessus. Si on lit ce que Marine Le Pen publie, ce qu'elle propose, c'est clairement un Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne. Alors bien sûr, elle essaye de limer les angles de sa proposition, mais si on suit la logique de ce qu'elle propose, la seule issue, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Il ne faut quand même pas se payer de mots.
Et la sortie de la France de l'Union européenne, ça veut dire quoi pour l'Union européenne ?
Je pense,
c'est la fin de l'Union.
Je vois mal comment est-ce que, après que deux pays majeurs de l'Union la quittent, je vois mal comment est-ce qu'on peut encore faire tenir le projet. Alors ça serait l'Allemagne plus, quoi. Et franchement, je suis un admirateur de la culture allemande et de l'Allemagne, mais il est mauvais qu'une seule culture imprime les politiques de l'Union comme elle le fait aujourd'hui.
Donc Allemagne moins, mais Belgique plus.
Deutschland,
one point. Portugal maintenant, le monde entier vole au secours du cinéma portugais, Eric.
Oui, donc vous savez, le cinéma portugais, on en parle un petit peu parce qu'au fond, il y a quand même des bonnes critiques internationales. Mais au fond, c'est pas un grand cinéma dans le sens où il n'y a qu'une douzaine de films, là je parle en volume, qui sont produits par an. Mais néanmoins, ce cinéma en ce moment est très inquiet à cause notamment d'une mesure que s'apprête à prendre le gouvernement. Et il a fait appel, tous les professionnels du cinéma ont fait appel finalement à leurs collègues de l'international, et notamment à l'espagnol Pedro Almodovar, mais aussi à qui Korismaki, Aléo Garax, et tous ces gens-là ont signé, ont apporté leur soutien aux professionnels du cinéma portugais pour signer une lettre, pour apporter leur soutien contre cette réforme. Alors c'est une réforme qui veut, qui laisserait les chaînes de télévision et les opérateurs des télécommunications peser sur l'attribution des aides publiques à la production. Alors évidemment, ça crée un scandale, en tout cas chez les professionnels du cinéma, qui voient des conflits d'intérêts, qui voient une mainmise possible du secteur privé. Et c'est le journal en ligne Observador qui nous rapporte cette formidable mobilisation, non seulement portugaise, mais aussi internationale, en faveur de ce petit cinéma, mais néanmoins assez réputé à l'étranger.
Voilà, le ton monte au Portugal. Vous écoutez à Lisbonne. Éric Scholl, merci. Éric Scholl pour cette revue de presse. Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Merci Fabien Dell, membre de du cabinet de la Commission européenne. Vous étiez chez Michel Barnier ou chez Pierre Moscovici? Chez Pierre Moscovici. je vous taquine. Merci Jean Quatremer de Libération. Merci Charles de Marcy de la Fondation Schumann. Merci Philippe Lambert des Verts. Merci Alexandre Rougier et Hélène Leroux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen qui l'ont mis en son et en image. Merci à vous de nous avoir supportés, de nous avoir reçus dans votre voiture ou chez vous ou dans vos écouteurs pendant cette heure sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. À la semaine prochaine.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.